La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La France bouge, l'émission des entreprises, des associations, des collectivités qui vont bien, des parcours de vie aussi. Ici, c'est simple, on trouve des solutions et en plus, elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec vous. Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. L'économie sociale et solidaire à la une en ce mardi sur Europe 1. Comment financer toutes ces entreprises? Comment accompagner les plus fragiles? Comment soutenir ceux qui sont loin de l'emploi? C'est la mission justement de l'association France Active et on parle de tout cela jusqu'à 14h avec notre témoin exceptionnel Pierre-René Lemas, président de l'association France Active.
À la une, l'exemple d'une entreprise sociale et solidaire, Moulineau, spécialiste des déchets alimentaires, embauche des personnes en insertion professionnelle, elle développe une flotte de camions écologiques, elle implique aussi de plus en plus de producteurs en biodéchets. Bref, c'est une entreprise d'aujourd'hui, de 2021 et on va la découvrir d'ici quelques minutes.
Et puis accompagner ceux qui sont loin de l'emploi, c'est aussi la mission d'une entreprise adaptée, c'est-à-dire qui a 80% de salariés en situation de handicap. Gros plan sur les papillons de jour, c'est une agence de communication et ce sera notre saga du jour.
Et puis bien sûr, comme chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient défendre sa toute jeune entreprise. Aujourd'hui, le pitch du jour sélectionné avec la CCI s'appelle Cocoon Care, des solutions de prévention pour les seniors et leurs aidants. Et on va écouter ce projet d'entreprise vers 13h45.
Et enfin, comme chaque jour, demain au travail, on passera un coup de fil chez où là-bas, on fait quoi? Eh bien, on fait tout pour maintenir le lien entre collaborateurs. Bah oui, c'est pour ça qu'on les a choisis.
Évidemment, c'est ça la France bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, hein, c'est bien un des secteurs qui bouge en France. Alors surtout avec cette crise, on a vu à quel point c'était indispensable. L'économie sociale et solidaire, comment justement avancer? On en parle avec notre témoin du jour jusqu'à 14h.
Bonjour Pierre-René Lemas.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de l'association France Active. On vous connaît aussi car vous, comme l'ancien secrétaire général de l'Élysée.
C'est vrai.
France Active existe...
Il paraît, ça a duré quelques années.
Ça s'est bien passé.
2 ans.
C'est très bien. Et France Active existe depuis plus de 30 ans. Et vous êtes l'un des premiers financeurs de l'économie sociale solidaire en France. C'est un acteur majeur de cette économie. Mais France Active, Pierre-René Lemas, c'est pas forcément très connu. Alors d'abord, c'est quoi France Active? Pour nos auditeurs.
Alors France Active, c'est pas très connu parce que c'est un objet original. C'est une association qui fédère 40 associations au niveau régional. Et en même temps, c'est un mot qui s'utilisait dans le passé et
déjà
qui s'utilise dans l'avenir.
Non,
c'est pas un mot connoté. En même temps, c'est deux sociétés financières. Une société financière qui accorde des garanties aux gens qui veulent créer leur entreprise. Le jeune qui n'a pas d'argent, il veut créer son entreprise, il va à la banque, il a besoin d'une garantie. Alors la garantie, c'est soit l'héritage de la grand-mère, mais peu de gens ont l'héritage de la grand-mère, soit une garantie accordée par un organisme. Et c'est France Active qui le fait pour ceux qui sont éloignés de l'emploi. Et puis c'est une société d'investissement qui investit dans l'économie sociale et solidaire, qui met des fonds propres dans l'économie sociale et solidaire.
Mais c'est vrai qu'on a parfois du mal à savoir ce que c'est finalement cette économie sociale et solidaire. Je le disais, à l'aune de cette crise, peut-être que plus encore que d'habitude, on a vu à quel point ces entreprises sont indispensables, parce que c'est souvent le dernier maillon du lien social. C'est ça, l'économie sociale et solidaire?
C'est ça, mais c'est plus que ça. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie dont la finalité est sociale, territoriale, solidaire, écologique. Mais les moyens de l'entreprise sont les moyens d'une entreprise. On est dans un monde qui est ce qu'il est, qui est un monde libéral. Une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Et une entreprise d'économie sociale et solidaire, ça doit aussi faire des profits. Contrairement à ce qu'on raconte parfois.
Oui, on n'est pas dans des associations. On est dans des entreprises qui ont un compte de résultats. Il faut qu'ils soient bénéficiaires.
On est dans le monde des sociétés anonymes, des SAS, des COP. On est dans le monde des entreprises. La différence, c'est quoi? La différence, c'est la finalité. On utilise ce profit, on utilise tout ça pour quoi? Pour former des gens très éloignés de l'emploi, pour accompagner des handicapés dans des ateliers d'insertion, pour aider ceux qui ont la volonté d'animer un territoire. Vous savez, animer un territoire par les entreprises, c'est essentiel. Ou de faire de l'économie circulaire, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de développer l'écologie. Donc c'est là la finalité sociale, sociétale, écologique qui fait la vraie différence.
Alors Pierre-René Lemas, vous avez été au service France Active hein, de 30 000 entreprises l'année dernière. Mmh. Vous venez de le dire, hein, la mission c'est d'accompagner des entrepreneurs engagés, vous aider des chômeurs à créer des entreprises, hein, ceux qui sont loin de l'emploi, hein, c'est comme ça qu'on les définit. Vous garantissez des emprunts bancaires. Comment ça va en cette presque, j'ai envie de dire, presque fin de crise sanitaire? C'est-à-dire qu'on revient d'une année qui est totalement apocalyptique. Comment ça s'est passé? Comment ça va aujourd'hui pour cette association, pour France Active?
Alors, comment ça s'est passé dans toute cette période de crise, on a mobilisé nos équipes territoriales, vous voyez, 40 associations régionales.
Pas disséminées sur tout le
qui
territoire.
Qui sont sur l'ensemble du territoire. Mmh. D'ailleurs, j'en profite pour le dire à vos auditeurs, si quelqu'un veut créer une entreprise, si quelqu'un veut développer l'économie sociale et solidaire, il met le nom de la région.org. France Active Bretagne.
Et là, ça tombe sur ses
Alors là,
Active.
Il a quelqu'un au téléphone immédiatement et il a quelqu'un qui lui répond par mail absolument immédiatement.
Ce qui est aussi très important dans votre activité, c'est qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la quête de sens.
Oui.
Là, on est véritablement dans la quête de sens, dans l'économie sociale et solidaire.
Oui,
c'est un point important du développement de cette économie.
C'est un point majeur. Moi, je suis persuadé que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui a un avenir considérable. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'une partie de l'économie classique, en quelque sorte, l'économie dont on parle, les grandes entreprises, depuis la loi dite Pacte, qui a été portée à l'époque par Bruno Le Maire, on voit apparaître désormais des entreprises à mission. Mmh. D'une certaine manière, les entreprises d'économie sociale et solidaire sont les précurseurs de ça. Mmh. Parce qu'on est des entreprises à mission par nature. Certains appellent ça des entreprises à impact social, écologique... par nature, et c'est ça la vraie différence.
Alors comment ça s'est passé cette année?
Alors ça s'est passé qu'on s'est retrouvé dans la même situation que l'ensemble des...
du pays.
De l'ensemble du pays, l'ensemble des entreprises, avec des difficultés dans les mêmes secteurs, secteur de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, etc. On a été amené à... Je vais vous dire des choses très concrètes. On a été amené à prendre contact avec 30 000 entrepreneurs. Dans cette période, à partir du mois de mai de l'année passée, 30 000 entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire éventuellement refaire notre business plan, éventuellement réfléchir à la manière dont on va gérer le chômage partiel, dont on va bénéficier des aides de l'État. Ils avaient besoin d'accompagnement. Et la deuxième chose dont ils avaient besoin, c'est d'un peu de temps. Et pour le temps, on a créé cet été... L'été passé, on a créé un prêt relève, on appelait ça comme ça, un prêt relève solidaire, c'est-à-dire un prêt à 18 mois, 2 ans, de l'ordre de 100 000 euros, gratuit évidemment, qui permettait à ces entreprises, au-delà de la trésorerie, parce que la trésorerie, l'État l'a réglé, d'avoir un peu de temps pour réfléchir à la manière dont ils allaient sortir de la crise.
Est-ce qu'ils en ont eu vraiment besoin de ce prêt? Parce que quand on voit aujourd'hui la situation de l'économie au global, il y a eu une peur panique à la fin du premier confinement. On avait un sentiment, le gouvernement même à l'époque, parlait d'un mur des faillites à venir. Force est de constater qu'il n'est pas là, ce mur, et fort heureusement pour le moment. Qu'est-ce qu'il en est du côté de l'économie sociale?
Du côté
et
de l'économie sociale, c'est variable. Comment dire? À nouveau, on n'est pas dans une situation qui est radicalement différente du reste de l'économie. En matière agricole, en matière de production industrielle, en matière de traitement des déchets, on n'est pas dans un monde très différent, sinon par les finalités. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on a mis énormément d'argent sous forme de trésorerie. L'État a noyé de trésorerie, en quelque sorte, le feu qui commençait à couver. Beaucoup d'entreprises n'ont pas utilisé cette trésorerie. Pourquoi? Parce que les entreprises avaient besoin d'autre chose. Enfin, elles avaient besoin de ça, pour certaines d'entre elles. Mais pour la plupart d'entre elles, elles avaient besoin d'autre chose, c'est-à-dire d'avoir un horizon devant elles qui leur permette de dire voilà ce que je fais en 21, en 22, en 23.
Ne serait-ce que pour investir, pour prendre des risques,
voilà,
pour se
donc,
développer.
On s'est très vite rendu compte qu'elles avaient besoin plutôt de prêts longs, gratuits, pas chers. Nous, on les a fait gratuits. Puis deuxièmement, elles avaient besoin de capitaux.
C'est plus d'un an? Des prêts longs, c'est quoi? C'est 12
c'est 18 mois,
18 mois.
Et c'est encore possible, hein, je me permets de le dire, c'est les entreprises peuvent encore en bénéficier via France Active. Et puis elles avaient besoin de capitaux. Parce que en sortie de crise, on savait que le problème allait être plutôt un problème de capital. Je parle à un économiste, elles avaient besoin, même, pardon si je jargonne, elles avaient besoin de haut de bilan, de renforcer leur haut de bilan.
Oui. Justement pour continuer à investir et tout ça. Mais ce qui est très intéressant dans tous les chiffres que vous nous donnez aujourd'hui, Pierre-René Lemas, patron de France Active, c'est que l'année dernière, vous avez créé beaucoup d'emplois. Vous avez continué à réussir dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire,
oui,
à créer des dizaines de milliers d'emplois.
Combien?
58 000. L'année passée, alors c'est pas... Non, je vais être précis. C'est 58 000 emplois que nous avons créés ou consolidés, dont 60% créés.
Ce qui est énorme.
C'est extraordinaire.
Ce qui veut dire que la dynamique de l'économie sociale est formidable. Vous savez, pendant la crise, on a regardé à l'automne dernier, on a eu à peu près la même tendance à la création d'entreprises qu'en 2019. Alors, c'est vrai d'ailleurs de l'économie en général, mais dans
et
l'économie sociale...
Et on sait que généralement, en période de crise, c'est souvent un bon moment pour créer son entreprise, parce que certains veulent créer leur job.
Vous avez parfaitement raison.
Et c'est peut-être encore plus vrai chez vous, du coup.
Et c'est vrai chez nous, parce que nous, notre public, c'est quand même d'abord le public des gens qui sont très éloignés de l'activité de l'emploi. Un tiers de nos interventions, c'est dans les quartiers ou dans les zones rurales difficiles. C'est des gens paumés dans des lieux qui sont souvent des lieux éloignés de l'activité.
Vous allez continuer à nous parler des actions de France Active, hein, près de 60 000 emplois créés grâce à cette association, grâce à France Active. Pierre-René Lema, vous êtes le président de cette association, vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, on est toujours très heureux avec Elisabeth de vous accueillir en direct dans La France bouge de 13h à 14h du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on parle économie sociale et solidaire et on en parle avec Pierre-René Lema, président de l'association France Active, ancien secrétaire général notamment de l'Élysée, mais qui a également été à la tête de la Caisse des dépôts, donc il connaît très bien le sujet.
Et en 2021, être entrepreneur, c'est faire attention à son environnement, à ses salariés, c'est être rentable finalement, hein, tout en faisant du bien, c'est changer en quelque sorte notre société. Un exemple avec vous, Stéphane Martinez, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé Moulineau. Moulineau, c'est une entreprise qui existe depuis 7 ans. Elle valorise les déchets alimentaires en compost et en énergie, bientôt 8 ans. L'aventure a donc commencé il y a presque 8 ans parce qu'avant, vous étiez restaurateur. Vous avez été le premier restaurateur à valoriser les restes alimentaires, les déchets organiques, notamment avec des vers de terre. Ça a cartonné, hein, 100% de croissance annuelle sur les 5 dernières années. Mais comment ça se fait?
Parce que tout simplement, c'est du bon sens peut-être.
C'est quoi le bon sens quand on est dans quand on fonde Moulineau?
Le bon sens pour Moulineau, c'est qu'on n'est plus dans le déchet, mais la matière première, secondaire, qui nous permet de créer d'une de l'énergie, comme vous l'avez très bien dit. On peut en faire du biogaz avec des partenaires agriculteurs. On peut en faire du compost pour renourrir les sols, qui va nous permettre de remettre des bons légumes dans nos assiettes. Et on peut surtout, en même temps, accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi, les former sur ce que j'appelle ce nouveau métier.
C'est quoi ce nouveau métier?
Chauffeur, collecteur de biodéchets, mais de restes alimentaires. Ça demande... On implique les chauffeurs maintenant à savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette matière. Le chauffeur, il sait que la matière alimentaire, le gaspillage alimentaire qu'on collecte, ben il sait qu'on en fait du méthane, il sait qu'on en fait du compost, il sait, il a été voir comment ça se passe sur une usine de méthanisation, il a été voir comment ça se passe en transformation dans le compost, il connaît toutes les règles sanitaires, puisqu'on collecte et on transporte de la matière
et
vivante.
Et vous formez ce chauffeur?
Bien sûr, on a monté la première formation de chauffeur-collecteur titrante, et c'est une formation de 300 heures.
Mais comment vous est venue l'idée? Parce que là, on le sent, vous êtes passionné. Vous dites que c'est du bon sens.
Le côté bon sens, certainement. Le
non,
côté
mais bon sens,
aussi,
vous étiez restaurateur, c'était bien
mais,
votre vie.
Mais elle était bien, ma vie, elle était même merveilleuse, mais
vous
elle est encore merveilleuse aujourd'hui.
Dans quel restaurant?
On a commencé nos aventures dans la restauration. Alors moi, ça fait 3 générations qu'on est
donc
sur Paris.
Plus, ouais,
ma grand-mère, ma mère.
C'est ancré chez vous.
Et nous, on a commencé nos premières activités dans le 15e avec un petit bistrot. Ensuite, on a grandi avec un petit gastro dans le premier. Et on a fini avec un vrai bistrot qui était Passage Choiseul. On l'a vendu il y a 3 ans.
Alors c'est quoi? D'où vous vient l'idée? Vous dites il y a trop de déchets, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de donner du sens. Ça vient d'où?
Ça vient tout simplement d'un constat. Je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie, en 2006, que je jetais mes restes alimentaires dans la poubelle classique. Et je me suis dit, où elle va cette poubelle classique? Et je me suis rendu compte qu'elle était incinérée, enfouie. Je lui ai dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. J'ai regardé un peu ce qui était fait. Il n'y avait rien et pas grand-chose qui était fait. Je me dis, tiens, comment ça se passe? Alors, j'ai vu qu'au Canada, ils faisaient du lombricompostage. Tiens, intéressant, qu'est-ce que c'est que ça? Ils donnent des déchets végétaux à manger à des vers de terre qui font un super engrais. Donc, je suis parti dans une idée un peu folle. J'ai acheté 10 kilos de vers de terre, je les ai mis dans ma cave et surtout...
C'est vrai, ça commence vraiment comme ça?
Ah, ça a commencé comme ça, mais on boit beaucoup dans la restauration, on est des épicuriens.
Vous êtes dans le journalisme aussi, mais ça ne vous donne pas autant d'idées.
La chose importante que j'ai faite, qui m'a permis aussi d'être crédible, c'est d'expliquer à mon cuisinier et à ma serveuse ce que j'avais mettre en place pour pas qu'ils me prennent pour un dingue. qu'ils comprennent. Mmh. Et qu'ils comprennent aussi que c'était normal et logique, puisque dans l'histoire de la restauration, il faut savoir que de la génération de ma mère, non, parce qu'on est passé au sac noir et tu t'occupes de rien, mais ça là-dedans. Mais la génération de ma grand-mère, il y avait des flux qui étaient plus ou moins organisés. Mmh. Dans son resto, il y avait des soins à cochons. Ça nourrissait les animaux.
Donc finalement, on revient à l'essence, c'est ça que vous nous dites.
C'est comme ça que je dis. On revient à l'essentiel, au bon sens, avec du 2.0. Mmh.
Mais
c'est,
de toute façon,
c'est joliment dit.
On le voit même dans l'aérien, qui va utiliser de l'huile de cuisson pour pouvoir faire voler les avions demain. Ça existe aujourd'hui dans quasiment tous les secteurs industriels qui vont avoir besoin de se déboucher.
Alors nous on explique et notre cœur de métier et nos valeurs sont le fait de dire ce gaspillage alimentaire, triez-le à la source. Regardez tout l'impact qu'on est capable de créer derrière ça.
Et ça crée quoi comme impact ?
Un merveilleux impact environnemental, puisqu'on limite l'incinération, on va vers de la valo, et socialement parlant, ça c'est merveilleux. Mmh. Pour collecter, il nous faut des chauffeurs, pour vendre la solution, il nous faut des commerciaux, il nous faut aussi des composteurs, il faut vendre ce compost. Enfin, il y a toute une économie qui va autour de cette aventure, et comme il n'y a rien qui est fait à côté, imaginez-vous, on n'est même pas à 5% de valorisation de matière organique en France, si on commence à trier 10, 15, 20%, regardez la manne d'emploi qui va être créée avec du sens.
Et ça va encore plus loin, parce que là, vous parlez des chauffeurs, justement. Mais même votre flotte de camions, elle est écologique.
Bah, c'est dès le début, je me suis dit, tiens, cette matière-là, on peut
global.
En faire du gaz.
Ouais.
Donc, autant acheter des camions qui fonctionnent au gaz. Donc, on a acheté un premier camion en Italie, puis ensuite, on a fait fabriquer les camions en France. Oui. Mmh. Mais il y a une vraie cohérence, mais c'est normal. Enfin, je veux dire,
non, tout est cohérent dans ce que vous
Est-ce que disait tout à l'heure Pierre-René Lemas, il dit qu'il ne faut pas oublier que ces entreprises doivent gagner de l'argent. Vous êtes riche à millions maintenant ?
Non. Alors, riche à millions, oui, j'aimerais bien. À million, pourquoi pas ? Ça, c'est une bonne aventure.
Mais
qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce que j'ai envie en tant que fondateur et président de cette aventure ?
Que ça fasse des petits.
Petit, non, qu'on consolide et qu'aujourd'hui, on est capable. Enfin, on a vécu le Covid, on ne s'y attendait pas. Et nous, en plus de ça, on travaille avec les restes alimentaires. Donc, imaginez-vous, hein, 100% de croissance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on se retrouve à 8% d'activité. D'un seul coup, ding. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On attend que ça redémarre. Ou sinon, ben voilà, on a des valeurs, on a de l'impact, faisons les choses. Donc, on a mis en place tout un développement, si tu veux, de nos activités, puisqu'on a commencé par être capable d'accompagner les restaurants. Les particuliers, les collègues des ménages aussi à collecter tout ça, ben on s'est aperçu aussi qu'on avait des solutions pour les territoires. Donc en même temps, aujourd'hui, bah pas aujourd'hui mais demain, l'objectif c'est de Moulineau qu'on a monté sur Paris, l'Île-de-France, on en monte un deuxième, et ensuite début 2022, il y en aura un autre vers Bordeaux,
il
y en aura
un autre après. Des petits, c'est ce que je
on va faire des petits.
Oui, ben, c'est très bien.
Et vous allez faire des petits avec des personnes qui sont loin de l'emploi, parce que c'est votre autre mission, vous êtes vraiment... aussi emmené dans, vous êtes embarqué dans une aventure sociale au bon sens de ce mot, c'est-à-dire que vous sortez des gens qui sont loin de l'emploi.
On sort des gens, on les forme, et ça je trouve que c'est merveilleux puisque c'est un vrai emploi qui a du sens. Et ça, ça donne envie de grandir.
Pierre-René Lemas, vous êtes le président de l'association France Active, c'est pas un hasard Moulineau, hein, parce que France Active a soutenu Moulineau.
Oui, on a soutenu Moulineau depuis le début, on continue d'ailleurs à les soutenir, et c'est un exemple formidable, parce que en France, quand on parle d'innovation, on adore parler d'innovation, on parle de l'innovation tech, biotech, IoT, vous savez, il y a plein de vocabulaire qui termine par tech, comme ça. Mais l'innovation, c'est aussi une innovation sociale et une innovation environnementale. Et cette innovation-là, elle est porteuse d'avenir, elle est créatrice d'emplois. Et souvent, comme l'exemple de Moulineau le montre très bien, on peut, à partir d'une idée, mais
c'est du bon sens, ça vaut bien les idées
de haute technologie, on peut très bien créer des entreprises qui ensuite vont se développer. Vous savez, presque 90% des entreprises que nous aidons à créer sont encore viables et se développent après 4 ans.
On va continuer à en parler avec vous, Pierre-René Lemas. Vous êtes le président de l'association France Active. Merci à vous, Stéphane Martinez. Vous avez fondé Moulineau. C'est une belle réussite entrepreneuriale et on vous souhaite bonne chance. Merci à vous.
Merci.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et l'économie sociale et solidaire est à la une aujourd'hui de cette France Bouge. On en parle avec Pierre-René Lemas, président de l'association France Active, l'une des principales associations dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Et on l'entend hein, depuis le début de l'émission, même en cette temps de crise, eh bien, il y a eu des emplois de créés, 58 000 emplois créés, des entreprises qui ont pu là aussi continuer dans une économie qui donne du sens finalement au monde économique. Et parfois, on en a bien besoin.
Et dans ces entreprises qui ont du sens, hein. Certains n'ont pas attendu la crise. Comment donner de l'emploi aux plus fragiles ? Eh bien, on en parle avec vous, Katia Dayan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente et la fondatrice de l'entreprise Les Papillons de Jour. Les Papillons de Jour est une agence de communication, mais pas comme les autres. C'est une entreprise que l'on dit une entreprise adaptée, c'est-à-dire que vous avez 80 personnes qui travaillent avec vous,
hein,
40 salariés et 40 collaborateurs extérieurs.
C'est ça.
Et elles sont, ces personnes, en situation
Absolument.
De handicap. Pourquoi avez-vous monté cette entreprise à mission ?
Parce que moi aussi, il y a plus de 13 ans, j'ai fait le constat que les personnes en situation de handicap... D'abord, le handicap était quelque chose de tabou en France, on n'en parlait pas forcément, on n'en parlait pas souvent, la culture n'était pas très adepte du handicap.
Mais le handicap, les personnes âgées, tout ça...
Les personnes âgées, le handicap, tout ce qui était avec un semblant différent, c'était mis de côté. Et donc, en fait, le mot handicap faisait peur.
Mais ce qui est très intéressant dans votre profil,
merci.
C'est qu'à la rigueur, dans le secteur des agences de communication, c'est pas là où on attend à la base.
Non, voilà.
Alors qu'il faudrait que ce soit bien évidemment tous les secteurs. Et ce que vous montrez au quotidien, c'est que ça marche sûrement encore mieux avec des personnes en situation de handicap.
Exactement. En fait, une agence de communication entreprise adaptée, ça n'existait pas. Donc c'est vrai qu'on a été, enfin j'ai été la première à y créer une entreprise adaptée, agence de communication. D'abord parce que les personnes en situation de handicap chez moi, elles ont des compétences intellectuelles, elles ont des handicaps invisibles et on sait aujourd'hui qu'en France que 80% des handicaps sont invisibles et que ce n'est pas parce que nous avons aujourd'hui un accident de vie ou une maladie auto-immune
qu'il faut arrêter
que nous ne sommes pas capables de faire des montages, du shooting, de la création graphique, des métiers à véritable valeur ajoutée pour les entreprises.
Mais justement, ils font quoi comme métier vos salariés ?
Alors nous sommes une agence de communication 360 et nous avons tous les corps de métier avec toutes les prestations de services qu'offre une agence de communication
classique normal.
Communication, construction de projets, shooting, vidéo, motion design, développement web.
Mais c'est comment vous avez fait le choix d'embaucher, de travailler avec des personnes en situation de handicap. Ça se passe, c'est comment? C'est pour tous nos auditeurs qui ne savent pas forcément. C'est comment quand on travaille avec une personne qui est handicapée? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le recrutement, dans le rythme de la journée?
Non,
rien ne change.
Rien ne change. Il n'y a rien qui change en fait. C'est une personne qui a une situation de handicap et qui est capable, avec des compétences, de travailler comme vous et moi. Alors, bien sûr qu'on adapte certains postes, c'est évident, comme on pourrait adapter aujourd'hui un poste de travail pour une femme enceinte. Mais pas plus ni moins qu'une autre.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a préparé cette interview, vous avez dit à notre équipe, je me vois comme une passerelle vers l'emploi. Puisque, grosso modo... Vous validez le fait que ces gens sont aussi performants, voire plus performants que la moyenne. Et derrière, on vient piocher chez vous parce que tout le monde sait, c'est bon, elle a fait le job, elle l'a sourcé. Et comme ça, je peux l'embaucher parce qu'il ou elle est très performante.
En fait, vous avez validé, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, la fonction d'une entreprise adaptée, pour être assez concise, en 2005, Monsieur Chirac a créé une loi qui imposait aux personnes, aux entreprises d'embaucher 6% de personnes en situation de handicap.
Très très loin.
Donc
au niveau
on en
national.
Est très très loin. Il y avait deux axes. Donc il y avait aujourd'hui l'emploi direct et l'emploi indirect. L'emploi indirect, c'est par le biais d'une entreprise adaptée. Une entreprise adaptée, sa fonction, c'est aussi de servir de passerelle vers l'emploi. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons créé plus d'une centaine d'emplois en France. Pendant la période du Covid, qui a été une hécatombe économique pour certaines entreprises, nous, on a beaucoup travaillé. On a aidé les entreprises à continuer à embaucher, à maintenir les postes de travail en place, à construire aussi et à rééduquer leurs salariés par rapport au télétravail, ce qui n'était pas évident du jour au lendemain d'être en télétravail et de travailler de la maison.
On sait que ça a été plus dur en plus pour certaines personnes handicapées, puisqu'on avait fait une émission il y a quelques mois autour de Sophie Cluzel, qui est la secrétaire d'État en charge du handicap, qui disait que le premier confinement notamment avait été terrible pour ces personnes handicapées qui étaient sorties la vie active d'une certaine manière.
Elles sont sorties de la vie active et du coup il n'y avait plus de sens. Et donc toutes ces personnes-là, d'abord on n'en a pas assez parlé. Moi je trouve, si je peux me permettre...
Mais allez-y, c'est le moment ou jamais.
Voilà, on n'a pas assez parlé des personnes en situation de handicap pendant le Covid, après Covid. Et c'est un sujet qui n'est pas tellement mis en avant aujourd'hui.
Elles vont comment justement, vos salariés, après avoir passé ces périodes, ces couvre-feux, ces confinements? D'abord, comment vous vous êtes organisés? Vous les avez mis en télétravail?
Non. Elles n'ont pas voulu être en télétravail.
C'était important.
On a agence. Non, ouais, voilà, complètement. Nous, déjà, dans notre métier, on n'a pas fait du tout de télétravail parce que ça désociabilise. Et puis, moi, mes salariés ne voulaient absolument pas être en télétravail.
Et vous avez job pour recruter, là?
Pardon?
Si certains nous écoutent et se disent, tiens, je suis en situation de handicap, j'ai du mal à trouver un travail, mais cette dame, elle a l'air plutôt sympathique.
Bah écoutez, si elle rentre dans le cadre de notre compétence, avec plaisir, on a toujours du travail. On a toujours besoin de personnes, de journalistes, de directeurs artistiques, de créa, d'infographistes, de motion design. Il ne faut pas oublier que nous, on travaille aussi avec un public qui est très jeune. On a beaucoup d'alternants. On fait beaucoup de formations. Et surtout, nos salariés, on les monte en compétences.
Qui sont vos clients ?
Alors, nous avons des grands capitaines de l'industrie. Parce qu'on co-construit avec eux des campagnes de sensibilisation. C'est facile de dire on embauche une personne de handicap pour remplir une obligation d'emploi. Mmh. Mais enfin, une personne en situation de handicap, ce n'est pas un pot de fleurs non plus.
Bien sûr.
Il faut aussi savoir l'insérer, l'intégrer dans une entreprise, accompagner les entreprises. Donc nous, on accompagne les entreprises, on les aide à recruter. Et donc du coup, les grands capitaines de l'industrie, comme les petites PME, PMI, font aujourd'hui appel au papillon de jour.
Donc vous êtes aussi devenue une agence de recrutement.
Oui, c'est vrai.
Pierre-René Lemas, je rappelle que vous êtes le patron de France Active, l'un des plus gros financeurs de l'économie sociale et solidaire. Peut-être déjà un mot sur cette aventure. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, je trouve que c'est une expérience formidable, mais vraiment formidable.
Merci.
Que vous avez fait. Je sais à quel point c'est compliqué de monter une entreprise adaptée.
Déjà, monter une entreprise, c'est compliqué. Alors imaginez une entreprise qu'avec
c'est compliqué.
Des personnes en situation
monter
de handicap.
Monter une entreprise adaptée, c'est compliqué. Dans un univers qui est celui de la communication, ce n'est pas plus simple non plus. Vous savez, il faut avoir en tête que le taux de chômage des gens en situation de handicap est le double du taux de chômage de la population générale. Je crois que ça doit être de l'ordre de 16%.
À peu près, ouais, entre 16 et 18%,
donc
c'est énorme.
Voilà, nous, on est France Active, on est prêt d'abord à vous accompagner, hein, je le dis. Et
si,
puis, deuxièmement, on accompagne énormément les entreprises. Vous savez, autrefois, comment ça s'appelait ? Ça s'appelait l'insertion par l'économique. Comment utiliser les entreprises comme un vecteur de création d'emplois, de développement humain et de formation. Et je trouve que c'est une des pistes tout à fait intéressantes. Nous, en tous les cas, on y croit.
Vous y croyez parce que vous développez également ce secteur. Est-ce que vous aidez les entreprises justement aussi à embaucher dans les personnes en situation de handicap, mais également à réinsérer, je crois, les prisonniers. Et on peut élargir à d'autres profils qui ont du mal parfois à arriver du côté de l'emploi, ceux qui sont très loin dans certaines zones rurales où il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus rien. Et du coup, c'est compliqué là aussi de trouver un job. Alors bien évidemment, on ne peut pas mettre tout sur la même ligne, mais c'est la même idée. C'est aider ceux qui sont loin de trouver du travail.
Ceux qui sont loin de l'emploi,
tout simplement. C'est la même idée. Nous, notre priorité, c'est d'abord les quartiers populaires, là où il y a une vraie difficulté pour trouver de l'activité et de l'emploi. Les zones rurales qu'on a longtemps oubliées, les zones rurales un peu perdues, qu'on appelle les zones rurales sensibles. Et puis, c'est au moins un tiers de notre activité. Et dans notre projet à 5 ans, on va passer quasiment à la moitié. Et puis, c'est les gens qui ont une vraie difficulté pour des raisons sociales, humaines. Vous parliez des prisonniers ou des gens qui sont un peu marginalisés pour des tas de raisons, notamment celle-là. On accompagne, par exemple, une magnifique entreprise qui s'appelle Envie, qui fait du recyclage de matériaux, et d'autres entreprises qui font du recyclage de matériaux médicaux, un petit peu partout en France. On les accompagne, pourquoi ? Parce qu'ils prennent des salariés qui n'ont pas de formation ou qui sont en difficulté d'insertion, et puis ils les forment. Et puis, à la fin de l'histoire, ils restent dans l'entreprise où ils trouvent du job ailleurs. Et donc, c'est des pistes formidables. D'ailleurs, on travaille beaucoup ces derniers temps avec Elisabeth Borne sur un projet global sur la politique d'insertion, notamment à destination des jeunes. Vous savez, la campagne
«
Un jeune, une solution ».
Oui, on y travaille, nous aussi.
On les accompagne dans cette direction-là. Et c'est important, et puis, puisqu'on parle des personnes en situation de handicap, il faut avoir en tête aussi la situation des associations. Vous avez les entreprises et vous avez le monde associatif. Le monde associatif a beaucoup souffert de la crise, parce qu'une association, par définition,
elle n'avait plus du tout d'entrée,
c'est compliqué
plus rien
de vivre. Et on a bénéficié d'une initiative formidable qui a été prise par Olivia Grégoire, la secrétaire d'État à l'économie sociale, qui nous a demandé de distribuer une enveloppe globale de 30 millions d'euros, c'est pas rien, pour subventionner les associations en difficulté.
Alors, je voudrais juste, si vous le permettez, rajouter quelque chose. Aujourd'hui, vous nous avez invités, et d'abord, je vous en remercie, parce que le sociétal, le social, c'est très important. Je pense que à partir du moment où on a eu cette période Covid-19, qui n'est pas encore terminée, en tout cas pour le moment, je pense que le monde va changer, que nous ne pourrons pas construire le monde de demain sans quelque chose d'humain. Et on ne pourra pas le reconstruire ensemble. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, nous aidons où nous essayons de changer les choses, de trouver de l'emploi, de travailler avec l'État.
À
dans
votre
un but
échelle,
de...
déjà, vous
voilà,
changez les choses.
À notre échelle, on
essaye
de réduire le taux de chômage, les formations, et de contribuer à notre petit niveau à faire bouger les choses. Mais il faut savoir aussi qu'en France, il y a un problème d'accessibilité. Et que certaines personnes qui sont en situation de handicap et qui ont de véritables compétences ne peuvent absolument pas se rendre sur leur lieu de travail.
Oui, voilà. Et s'y rendre tout simplement.
Voilà. C'est très compliqué aujourd'hui à Paris.
Vous avez raison,
c'est
l'un des points principaux.
Non, vrai,
et encore, quand on a la chance d'habiter dans une grande ville déjà comme Paris.
Alors, mais... Paris, il y a quand même une seule ligne de métro qui est la ligne 14 qui est accessible. Toutes les autres ne le sont pas. Voilà.
Qui est totalement accessible parce que les autres lignes, certains arrêts permettent
d'avoir des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes dans un public beaucoup plus fragile, des personnes âgées.
Les femmes enceintes avec les poussettes, les personnes âgées, etc. C'est très compliqué pour elles. Donc je pense que c'est vraiment ensemble.
Donc vous, Katia Daillon, vous nous dites qu'il faut construire le monde de demain ensemble. Et pas les uns.
On ne pourra pas faire autrement, Isabelle.
Merci à vous. Vous êtes la présidente et la fondatrice des Papillons de Jour. Merci d'être venue.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Merci à vous.
Et Pierre-René Lemas, le président de l'association France Active, on vous garde encore avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Elle bouge et grâce à vous, elle bouge encore un petit peu plus vigoureusement aujourd'hui puisqu'on voulait vous remercier avec Elisabeth et avec toute l'équipe de la France bouge, vous, les auditeurs, puisque vous êtes encore un tout petit peu plus nombreux,
oui,
plus de 20 000 en plus.
À chaque fois, ils sont un peu plus nombreux, mais venez, on vous attend et nous sommes très fiers.
Voilà, 20 000 de plus, ça fait 13% de plus. Vous êtes chaque jour plus de 320 000 à écouter La France Bouge. Et dans un contexte un poil compliqué pour le média radio, eh ben on est très heureux de vous compter chaque jour un peu plus pour
sur chaque vague et sur un an. Donc tout ça fait extrêmement plaisir.
Allez, on en vient au pitch maintenant, parce qu'il va falloir quand même donner un coup de main à des gens qui en ont besoin. On va voir tout cela avec Pierre-René Lemas. Vous êtes le président de l'association France Active. Et avec vous, bien évidemment, Nathalie Carré, notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie.
Et aujourd'hui, une start-up qui a été lancée il y a un an. Alors il y en a, voilà, en plein Covid, en plein confinement, ils se sont dit, tiens, on va monter une boîte. C'est ce que vous avez fait, Laurent Adé. Bonjour.
Bonjour, merci.
Vous avez 48 ans, vous venez de Sofia Antipolis, c'est près de Nice, et vous êtes le cofondateur et le directeur général de Cocoon Care. Ce sont des solutions d'alerte et de prévention au service des seniors et de leurs aidants. Vous avez donc créé Cocoon. Tiens, vous allez nous raconter l'histoire de cette entreprise et surtout ce dont vous avez besoin. C'est parti, vous avez une minute.
Écoutez, oui, effectivement, on a créé Cocoon Care il y a un an en pleine période de Covid. L'objectif de Cocoon Care, la mission de toutes les équipes, c'est de travailler pour favoriser, pour sécuriser le maintien dans leur logement des seniors. Pour ça, on a développé de la technologie. Alors là, pour le coup, on est sur de l'IoT. Et on développe effectivement une plateforme qui permet d'alerter, de prévenir et bientôt de faire des prédictions sur le quotidien des personnes âgées dans leur domicile. Et pour ça, on a choisi, dès le départ, de s'attaquer à un problème de santé publique qui a été dénoncé et mis sur la place publique par Luc Broussy ces dernières semaines, qui est celui de la chute des seniors dans leur domicile. Notre plateforme, elle a une capacité à se connecter à plusieurs objets, mais on a voulu se focaliser sur cette priorité-là, tout simplement parce que le chiffre des chutes à domicile n'a pas baissé, n'a pas évolué depuis maintenant 20 ans. Il est trois fois supérieur à celui de la mortalité routière. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique auquel on a choisi de s'attaquer.
Alors, moi, je suis souvent celui qui donne le prix pour que quand même chacun puisse en avoir une idée. De ce qu'on m'a dit, la solution fonctionne avec un système d'abonnement.
Oui.
Le capteur, lui, qui permet notamment de détecter les chutes, comme vous venez de le dire, vaut 450 €. Et l'abonnement est variable en fonction du nombre d'utilisateurs, si je ne dis pas d'erreur.
Oui, alors, en fait, on s'adresse à un public professionnel au début.
Bien
d'accord
sûr.
On a commencé sur un public professionnel. Donc, nos clients sont des EHPAD, des résidences seniors, des béguinages, des villages seniors. Donc le prix que vous avez, c'est un prix catalogue qui bien évidemment évolue en fonction des volumes, mais notre structure de prix, c'est effectivement l'acquisition du matériel et l'abonnement, qui est un abonnement de licence par capteur. Voilà.
Alors Laurent, je vais vous présenter Nathalie Carré, qui est en charge de la chambre de l'entrepreneuriat.
Ça y est, vous la nommez à la tête.
Ça y est.
C'est bientôt les élections justement à la tête des chambres d'industrie. Ça y est, c'est vous la patronne.
Vous êtes en charge de l'entrepreneuriat, pas encore la patronne de la chambre de commerce, mais
on va faire campagne pour elle.
On fera campagne pour vous en tout cas, Nathalie, ça c'est sûr. Non, plus sérieusement, quelles sont les forces et les faiblesses selon vous de Cocoon Care? Vous avez étudié le dossier et donc vous avez deux trois choses à dire à Laurent Adé. On vous écoute. écoute.
Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour. Les points positifs, vous dites dans votre vidéo, nous équipons les logements, pas les personnes. Oui. Ça semble tout bête, mais en fait, il fallait y penser et le faire parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions autour du cou. Et donc là, ça évite les oublis, les colliers qui gênent autour du cou et autres solutions que nos seigneurs doivent porter. Bravo pour le multi-usage, puisque donc, a priori, vous venez de dire, ça peut fonctionner au domicile, même si aujourd'hui, vous êtes plutôt parti sur les EHPAD et les résidences seniors. Je suppose qu'il est aussi possible de déplacer l'appareil pour installer dans un logement temporaire, par exemple quand papy ou mamie partent en vacances ou dans la famille. Et puis, le logiciel connecté à la solution pour avoir un suivi à distance de l'activité du senior avec les téléassistants, alors que vous appelez d'ailleurs assisteurs, qui peuvent donner l'alerte 24 heures sur 24. Alors, simplement un point amélioré. Sur votre site, donc, vous valorisez la solution B2B, donc vers les professionnels. Et du coup, vous poussez les professionnels à vous appeler pour une démonstration. Mais en revanche, pour vous assurer le contact, peut-être que vous pourriez donner un peu plus d'informations sur la technologie, parce que ça reste bien mystérieux, cette histoire. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des ondes qui capte la présence.
Oui, ça vous dit capteur, mais on n'a pas plus de détails, c'est vrai.
Mais c'est ouais. Ça, voilà. Donc, si la personne âgée sort de sa chambre, parce que, je ne sais pas, moi, elle sort et elle va faire des cours, j'en sais rien, comment vous faites la différence avec la personne qui change de pièce et qui tombe, par exemple?
Il y a vraiment tous les détails, vous.
Mais oui, mais c'est important.
Bah
surtout
oui, non,
mais
c'est important, tout ça rassure. En regardant le truc
c'est comme ça qu'on va détecter une chute, mais bien ou juste un chute, voilà, routinier.
Alors, c'est vraiment important, ce côté très concret, pour faciliter la qualification aussi des personnes qui vont vous appeler. Et puis surtout, pour nous, en tant qu'enfants, qui voudrions installer cette solution chez nos parents. Voilà, comment ça marche chez un particulier?
En gros, comment rassurer les particuliers pour qu'ils passent
cette solution? Exactement,
Laurent.
Exactement.
Alors, c'est très bien qu'on en parle. Alors, après, c'est le grand débat. Est-ce qu'on parle de la techno? Est-ce qu'on ne parle pas de la techno?
Est-ce que
c'est pas l'usage?
Mais là, on va en parler. Produit, on est là pour ça.
La techno, c'est tout simplement une technologie assez ancienne et assez éprouvée maintenant, puisque c'est celle du radar, en fait, pour prendre une image. Donc, en fait, vous avez un capteur. Que
vous avez
c'est
dans
pas
votre
très
poche.
Visuel, mais bon, oui, il est dans
mais
ma
non,
poche.
Non, mais c'est hyper important pour
vous. Il est petit, il fait 9 cm. 9 cm, c'est la largeur d'une taille de carte de crédit, si vous voulez. Il est très fin, il pèse 100 grammes. En gros, on le branche, on l'installe au mur ou au plafond, et après, on l'oublie, il travaille tout seul. Il fait le job tout seul, il est totalement autonome.
Et il en faut plusieurs dans la maison?
Alors, il en faut un par pièce.
Oui,
donc,
c'est ça.
Le schéma d'implantation classique que vous allez retrouver, c'est un dans la chambre à coucher, un dans le couloir, un dans la salle d'eau ou la salle de bain. C'est là où la majorité des chutes se produisent, dans les transitions entre la chambre et la salle de bain. Donc, la technologie radar, passive, automatique, on ne le met pas au cou des personnes, ni au poignet, parce que de toute façon, ces objets-là finissent dans un tiroir.
Bien
dans
sûr.
Un tiroir, et sont assez stigmatisants.
C'est ça, après, c'est un des points extrêmement importants. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de mettre son cordon parce qu'on se dit que tout le monde va voir qu'on risque de tomber au coin de la rue. Quoi.
On a son petit-fils ou sa petite-fille qui va arriver, ils vont voir le bouton, ils vont se dire « mais attends, c'est quoi ça, papy-mamie ?» Puis ils vont le mettre dans le tiroir et on ne le verra plus jamais. Donc ça ne fera pas le job. Nous, on le met au mur, au plafond, on l'oublie. Donc le radar qui, en permanence, va surveiller ce qui se passe dans la pièce et va détecter automatiquement les chutes.
Pierre-René Lema, patron de France Active, vous en pensez quoi?
Ah, moi j'aime bien, je trouve que c'est une belle idée. En plus, le pitch était
réussi.
Et assez clair, ce qui compte quand même. En fait, ce mécanisme, c'est une forme de téléassistance, comme on disait autrefois, mais qui est appuyé sur une technologie moderne, avec beaucoup, j'imagine, de logiciels qui tournent. Moi, je trouve ça formidable. Ça ressemble un peu aux capsules anti-incendie, vous savez,
exactement,
on est obligé de mettre chez soi des
exactement ce que je pensais.
Capsules qui...
En moins large.
Voilà, en moins large, et puis il n'y a pas le feu. Mais c'est vrai que les personnes âgées qui tombent, c'est quelque chose d'incroyable, en nombre.
Moi, ce qui m'a frappé dans le chiffre, c'est que le chiffre n'a pas, et demeure inchangé depuis 20 ans. C'est
incroyable. La mortalité routière a été divisée par 4 ou par 3, je ne sais plus très bien. Alors que là, vous avez...
Et si je peux me permettre, ça s'explique simplement. C'est que les gens restent de plus en plus longtemps à la maison, ils sont de plus en plus nombreux, les personnes âgées, et donc c'est normal que le taux d'accident reste élevé. Malheureusement, c'est pas normal qu'il reste élevé, mais on a...
Mais pas uniquement, parce qu'on a aussi aujourd'hui des objets. Nous, c'est le constat qu'on a fait. C'est qu'on a des objets qui sont sur le marché depuis 20 ou 30 ans, ce sont les mêmes technologies, elles n'ont pas évolué. Ces technologies, elles ont des niveaux de performance de détection qui sont très faibles, et donc... On n'est pas dans ce qu'on pourrait obtenir comme chiffre
et
comme résultat.
Bien sûr, on pourrait effectivement faire beaucoup plus si on faisait...
C'est la vôtre de technologie, comment vous l'avez conçue? C'est une technologie interne ou c'est
des
objets
La technologie du radar, donc effectivement j'aurais bien aimé faire le radar, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas moi qui l'ai fait, malheureusement, sinon je ne serais peut-être pas là. Donc c'est une technologie radar sur des cartes qui existent aujourd'hui sur le marché, qu'on a améliorées avec des algorithmes. Et puis derrière, on va venir développer des plateformes avec des applications sur le mobile pour l'alerte et la levée de doute.
Voilà. Ça s'appelle Cocoon Care. Hein. Merci à vous, Laurent Adé. Hein. Vous êtes en être le cofondateur, le directeur général. Bravo d'avoir osé monter votre boîte là en pleine crise sanitaire. On vous souhaite bonne chance. Donnez-nous de vos nouvelles. On
avec
aime bien
plaisir.
Savoir ce que deviennent nos pitchers.
Avec et Nathalie plaisir. Carré, avant que vous preniez la tête de la Chambre de commerce, vous serez également avec nous demain, y compris le 14 juillet. Si vous voulez d'ici là eh bien, venir présenter votre entreprise, il y a une seule adresse mail. e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidates en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Pierre-René Lema, vous êtes le président de l'association France Active. Vous restez encore avec nous quelques minutes.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission, toujours avec vous, Pierre-René Lema, le président de l'association France Active, l'un des leaders dans le financement de l'économie sociale et solidaire en France.
Et notre monde bouge, nos entreprises aussi. Hein, elles placent de plus en plus le facteur humain au cœur de leurs préoccupations. Et il n'est pas rare de voir des salariés qui ont besoin de maintenir le lien entre eux. Surtout,
du mal à décrocher aussi.
Voilà,
les fois à la maison.
Surtout pendant cette période de crise. Alors nous, on a trouvé une entreprise qui a mis au point des tas de petites choses. On va tout découvrir avec vous, Agathe Nicole. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Woo. Woo, ça s'écrit W-O-O. Accent circonflexe, c'est une agence digitale spécialisée dans l'influence, ce qu'on appelle le social media, etc. 55 salariés. Et déjà, quand vous avez créé votre entreprise il y a 5 ans, vous avez voulu mettre au cœur l'humain, la bienveillance. Votre envie à vous, c'est d'arriver le matin dans votre entreprise et de voir les gens heureux au travail. Et ce ne sont pas que des paroles. En effet, vous avez mis des tas de choses en place. Tiens, par exemple, les animaux sont les bienvenus chez vous.
Exactement. Les gens peuvent venir avec leurs animaux.
Il paraît qu'il y a toujours 4 ou 5 chiens qui se promènent, c'est vrai ?
Exactement, toutes sortes de chiens. Les gens sont... Enfin, voilà, les animaux, c'est bon hein, pour se concentrer, pour être heureux. Et donc, nous, on prône ça. On
quoi d'autre ? Je crois que vous organisez des spectacles, vous faites venir des humoristes. Enfin, on est très loin du monde de l'entreprise.
On chante
hein.
aussi chez vous, non ?
Bah, exactement. En fait, on veut que c'est chaque personnalité qui peut s'épanouir chez nous. Et donc, quand on en a qui font du stand-up, on a des petits spectacles au bureau, des concerts privés. Voilà, pendant le confinement, on a continué tout ça.
Elisabeth le disait, dès que vous avez créé votre boîte, vous avez pensé à cela. Est-ce qu'au fur et à mesure, c'est les salariés qui en demandent ou c'est vous qui organisez toujours tout ? Parce que Elisabeth le disait, des spectacles, des humoristes, le mercredi c'est coach sportif, le jeudi c'est apéro. Est-ce que c'est vous qui organisez tout ça ou est-ce que c'est les salariés qui maintenant arrivent avec leurs idées ?
Non, alors, quand j'ai créé Woo, je voulais une entreprise bienveillante, justement, qui sorte un peu de ce que j'avais pu vivre moi avant. Parce que je pense que quand les gens sont motivés et heureux,
ben là, en tout cas, ils sont heureux et tout va pour le mieux. Hein. C'est ce que l'on vient d'écouter et de découvrir avec vous, Agathe Nicole. Vous êtes la fondatrice de Woo. C'est déjà la fin de notre émission, de votre émission.
On est un peu en retard.
On est un
si
petit peu en retard. Mais parce qu'on a été passionnés avec vous, Pierre-René Lema. Merci d'être venu dans La France Bouge. Hein. Merci d'être venu nous présenter cette belle association qui est France Active, une association qui existe depuis plus de 30 ans et qui aide donc ceux qui sont loin de l'emploi. Merci à vous.
Et demain, on va aller dans les coulisses du plus gros recruteur de France. C'est quoi ? Eh bien, c'est l'armée. Mmh. Demain, on va aller dans les coulisses de l'armée. On va voir comment ça se féminise, quels sont les postes qui sont en train de créer. Il y a quand même 27 000 postes à pourvoir d'une certaine manière du
côté
de l'armée.
On découvre tout cela demain à partir de 13h. À demain.